Bonjour à toutes et à tous, je me présente Albert Raymond, je suis membre de la famille Raymond et je remplace mon père qui devait faire cette présentation aujourd'hui mais qui est en déplacement. Alors on intervient dans le cadre effectivement de l'entreprise à Raymond mais aussi du musée à Rome que nous avons créé il y a une dizaine d'années et qui est accessible au public tous les mercredis. J'ai monsieur Griffero, Gabriel Griffero qui est là, qui peut nous donner peut-être plus de précisions sur les horaires. Un mercredi sur deux pendant toute l'année, sauf pendant les vacances. Alors, en préambule, il faut préciser ce qui est le métier de notre entreprise, c'est la fixation technique. Alors, pour les Grenoblois, quand on parle de fixation, on pense d'abord au ski, évidemment. Mais vous allez voir que quand on parle de fixation, on peut aussi, voir beaucoup d'autres choses et ça s'applique à plein d'autres domaines. Alors, ce que je vais vous raconter, ce que je vais vous présenter, vous le retrouvez effectivement au sein du musée à Rome. Et donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a une équipe qui est très motivée et qui est effectivement très présente et qui vous fera vivre cette présentation beaucoup mieux que moi. Alors, comme mon ancêtre a démarré son activité de mécanicien il y a à peu près 150 ans, il ne se doutait pas de ce qui allait se passer et des conséquences, effectivement, de ce qu'il a inventé et ce qu'il a créé. Et de fait, tous les jours, on peut dire, c'est peut-être un petit peu prétentieux, que des milliards de femmes et d'hommes utilisent des pièces de fixation qui sont issues de nos savoir-faire. Alors, notre parcours a été jalonné par de nombreux produits qui ont connu un essor international, comme le bouton pression, qui a été inventé en 1886, et ou encore le raccord rapide en cliquetable. Alors, c'est un produit qui n'est pas connu du grand public, mais que vous pouvez trouver sur vos véhicules, notamment sur la ligne carburant. Et qui a été développé en 1993. Donc, depuis 150 ans, on peut considérer que l'usage de nos produits a touché plusieurs dizaines de milliards d'applications. Alors, c'est un chiffre impressionnant, mais si on rapporte ça aux quantités de pièces annuelles qu'on produit, qui est de l'ordre de 14 milliards de pièces, finalement, c'est comme ça. Donc, pour arriver à un tel état de fait, il a fallu développer au sein de l'entreprise de nombreux savoir-faire indispensables à la création, la production et la diffusion de nos produits. Ce qui aboutit finalement à la création d'un métier, le métier de la fixation technique. Donc, effectivement, comme mon ancêtre a démarré son activité, il ne se doutait pas à aucun moment qu'il allait créer un métier. Alors, ce métier, on peut le décomposer en 5 chaînes de savoir-faire. La première, c'est la recherche et développement de systèmes de fixation technique, la R&D d'une certaine manière, l'étude et la réalisation des outillages de fabrication, l'étude et la réalisation de machines spéciales pour la fabrication et pour la pose de pièces de fixation, la production et enfin la logistique. Alors actuellement, la logistique, on parle de logistique interne et de logistique externe. Les anglo-saxons parlent plutôt de supply chain. Mais ces cinq savoir-faire sont vraiment indispensables à l'existence de notre entreprise et au métier de la fixation. Alors, je vais vous détailler un petit peu ce qu'il y a derrière chacun de ces savoir-faire. Alors, en termes de R&D, effectivement, on a des bureaux d'études qui sont composés d'ingénieurs et de techniciens. On a des idées, bien sûr, des brevets qui permettent de protéger ces idées et ces inventions. Et ça représente actuellement, effectivement, 11 bureaux d'études dans le monde, pas seulement en France. On investit à peu près 6% de notre chiffre d'affaires annuel dans cette recherche et développement. On crée chaque année à peu près 850 nouvelles pièces dans le groupe. Et on estime à peu près à 40%, bon, c'est entre 30 et 40% de notre fabrication qui est protégée par des brevets. Alors, pour faire le lien avec l'aspect historique, nous avons démarré, mon ancêtre a démarré l'entreprise sur la base d'une idée qu'il a brevetée, qui n'est pas le bouton pression, pour ceux qui connaissent un petit peu l'entreprise, c'est le crochet à hélice qui servait dans l'industrie du cuir, qui était une industrie très présente à Grenoble, puisque il y avait les gantiers, mais il y avait aussi le monde de la chaussure. Donc il a inventé et développé effectivement une pièce qui s'appelle le crochet à hélice et tous les outillages qui permettaient de poser ce crochet à hélice sur du cuir. Alors Aconit a justement mis en valeur sur son site ce qu'était le crochet à hélice. Donc je vous invite à aller voir aussi sur le site d'Aconit l'explication de ce que c'est. Voilà, donc c'était en 1866. Et 10 ans après, on a inventé le bouton pression. Ensuite, dans les années 20, avec le démarrage de l'industrie automobile, on a créé et livré les premières pièces de fixation en acier trempé. Donc ça a été une révolution pour l'entreprise, puisqu'on est sorti du monde de l'industrie textile et de la chaussure pour aller vers une nouvelle industrie qui était l'industrie automobile, qui était vraiment naissante à ce moment-là. Voilà, donc on a quelques illustrations de nos bureaux d'études. Bon, là, c'est plus la production, mais voilà. Alors, ça, c'était le premier savoir-faire, la recherche et développement. En parallèle, on a un deuxième savoir-faire pour pouvoir réaliser nos produits, qui est l'étude et la réalisation des outillages de fabrication. Alors, on maîtrise deux domaines techniques. Le domaine historique qui est le découpage, cambrage, emboutissage des métaux en feuilles. Donc c'est ce qui a permis de démarrer l'entreprise. Et puis, chemin faisant, on a acquis une très forte expérience dans l'injection plastique. Donc pour réaliser les produits qu'on a conçus, on va développer des outillages propres à chacun de ces domaines d'expertise. Alors, dans le domaine des outillages métal, nous sommes des mécaniciens. On travaille dans le domaine de la mécanique de précision, mais autour de tout ça, il faut aussi maîtriser un certain nombre de domaines, comme la connaissance de la métallurgie. Les aciers qu'on va utiliser pour les outillages sont des aciers très techniques, donc il faut connaître tout ce qui est lié au traitement de ces aciers, aussi bien la trempe que le revêtement de surface, pour obtenir une dureté, pour que les outils ne s'usent pas, par exemple. Mais aussi, il faut maîtriser beaucoup d'autres domaines, notamment les techniques d'usinage, qui sont très importantes, et par exemple pour les moules, on peut parler de la rhéologie aussi, les études rhéologiques, mais aussi il faut être capable d'un point de vue humain de recruter des personnes dans des métiers qui sont de plus en plus durs actuellement à trouver. C'est le métier d'outilleur et de régleur, et ça c'est un souci. Ces métiers sont en train de disparaître malheureusement, et peut-être il y a un message, il y a peut-être des vocations à susciter. Ce sont des très beaux métiers qui touchent effectivement à des domaines d'expertise très pointus, et je pense que dans le domaine des savoir-faire de l'entreprise, et c'est quelque chose qu'on pourrait valoriser beaucoup plus, effectivement. Voilà. Alors, on a vu la recherche et développement, la conception des produits, la réalisation des outillages pour leur fabrication. Ces outillages... Alors, j'ai quelques petites images, là, c'est l'ajustement d'un moule. Ça, c'est un outil. On peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce sont des outils, effectivement, très complexes, qui font, effectivement, appel à plusieurs technologies. J'ai parlé de la métallurgie, j'ai parlé de l'usinage, mais il y a aussi, maintenant, de plus en plus l'électronique qui rentre en ligne dans la fabrication de ces outils. Voilà un petit peu les machines, mais ça, je vais en parler. Voilà. Alors, en même temps que les outils, il faut penser aux machines, soit les machines qui vont permettre de faire fonctionner ces outils, soit les machines qui vont permettre poser les pièces chez les clients. Et donc, on a développé aussi un certain nombre de savoir-faire concernant la réalisation de ces machines. Et vous pourrez, notamment dans le musée à Rome, vous pourrez voir un petit peu l'évolution des techniques liées à ces machines. Entre la première machine qui a été développée en 1872 pour la pose de ce fameux crochet à hélice, et les machines Gaillard qui là aussi sont valorisées par Aconite, qui sont vraiment des trésors de savoir-faire d'un point de vue mécanique. Ce sont chez les compagnons, on pourrait appeler ça des chefs-d'œuvre. Donc on a effectivement maintenant les machines maintenant ont beaucoup évolué. Elles sont ce n'est plus simplement de la mécanique, maintenant c'est de l'électromécanique, c'est de l'informatique, c'est de la robotique. Donc ces savoir-faire évoluent énormément et se complexifient. On a du mal au sein de l'entreprise à garder tous les savoir-faire. On est obligé de passer par des sous-traitants. Mais on essaye de garder la maîtrise d'œuvre et le cahier des charges de manière à toujours avoir cette maîtrise du savoir-faire global. Voilà, j'ai parlé du raccord tout à l'heure. Voilà une machine qui a été réalisée dans la banlieue lyonnaise par une société qui s'appelle Guinéret. Cette machine est entièrement automatique et permet l'assemblage des raccords que je vous ai présentés tout à l'heure. Et on peut voir la première machine d'assemblage de raccords aussi au sein de notre musée. Voilà. Alors, comment ? Il me reste 5 minutes. Alors, je vais passer la vidéo. Donc, autre savoir-faire, qui est un savoir-faire à part entière, c'est la production. Notre usine de Grenoble produit à peu près 15 000 pièces différentes. Et la production est un réel savoir-faire, parce que nous mettons en œuvre aussi différentes technologies. Alors dans la pièce, le métal est un métier, la fabrication de pièces métalliques est un métier très spécifique, puisqu'il ne suffit pas de produire la pièce avec les outillages que je vous ai présentés tout à l'heure, il faut aussi traiter la pièce de manière à ce qu'elle acquiert ses propriétés définitives. Donc on fait subir à la pièce un traitement thermique, donc là il y a une maîtrise de ce qu'on appelle la trempe bénitique, et un traitement de surface de manière à la protéger de la corrosion. Donc là aussi un savoir-faire spécifique en termes de traitement de surface et de chimie. Alors en termes d'injection plastique, c'est relativement plus simple. La problématique de l'injection plastique, c'est la gestion de la diversité, à la fois des produits et des matériaux qu'on va utiliser pour réaliser ces produits. Donc on a effectivement un certain nombre de presses à injecter de différentes puissances, de 50 à 500 tonnes. On peut aussi découvrir au sein du musée une presse à injecter et, qui explique le processus de réalisation de ces pièces. Voilà, on retrouve un petit peu les différents éléments. Alors je passe la vidéo. Hop. Alors cette production est répartie actuellement sur 22 sites en Europe, en Amérique, en Asie, et puis le petit dernier c'est au Maroc. Donc on a vraiment maintenant une présence internationale. Alors on peut voir quelques exemples, la Chine avec le gardien qui salue les visiteurs, c'est assez paradoxal, mais enfin voilà, ça c'est le petit dernier qu'on a inauguré il y a un mois en Inde, un bâtiment qui est tout récent. Donc effectivement, on n'est pas simplement dans l'aspect muséographique, c'est aussi une entreprise bien vivante qui continue à se développer et à évoluer dans ses savoir-faire. Alors le dernier point en termes de savoir-faire, c'est la logistique. Donc nous fournissons journalièrement des milliers de références à des milliers de clients. Pour réussir cet exploit, on a besoin effectivement d'un système informatique qui traite tous les flux de l'entreprise. Donc ça va de l'approvisionnement des matières premières, en passant par la prise de commande des clients, la planification des ateliers, la gestion effectivement des flux de livraison et la facturation. Donc sans l'informatique, actuellement, on ne pourrait absolument pas gérer l'entreprise. Ça, c'est très clair. Donc je sais qu'Aconit aussi est sur le domaine de l'informatique. Depuis 150 ans, alors on a passé par différents stades. On est passé effectivement de la tenue de registres sur des cahiers, en passant par la fiche perforée, quand on a installé les premiers ordinateurs effectivement au sein de l'entreprise, c'était des ordinateurs bulles, en passant par la disquette, la bande magnétique, et puis maintenant tout est dématérialisé. Mais nous avons effectivement eu cette chance de pouvoir évoluer avec tous les systèmes possibles et imaginables. Donc effectivement d'un point de vue patrimonial c'est assez intéressant. Donc pour les muséographes, je pense qu'il y a vraiment une belle étude à faire et il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Voilà, en conclusion, le métier de la conception, fabrication et distribution de pièces de fixation qui a démarré en 1872. Effectivement, il y avait trois compagnons à l'époque, c'était mon ancêtre, Albert-Pierre Raymond, Benoît Allègre et Alexandre Gutin, ce métier qui a été démarré il y a près de 150 ans, est poursuivi et maintenant est devenu un vrai métier original et très intégré au sein de l'entreprise. Il a suscité effectivement beaucoup de vocations. L'entreprise maintenant emploie 5000 personnes dans le monde. On est parmi les leaders, c'est vrai. Et paradoxalement, on a aussi créé un musée. Donc on est à la fois une entreprise vivante. Le précédent orateur a parlé d'une entreprise vivante et d'un musée qui présente des choses mortes. On a cette chance de pouvoir faire les deux en même temps, d'être vivant sur les deux plans. Et d'avoir un musée aussi qui présente ce qu'est l'entreprise actuellement. Voilà, pour résumer, effectivement, 14 milliards de pièces produites par an, 5000 personnes. On a 1000 brevets actifs, on en a un peu plus. On a en fait 300 familles de brevets qui représentent à peu près 2000 titres actifs. On a 300 personnes impliquées dans la R&D en direct, 22 sites de production et 6% de notre chiffre d'affaires consacré à la R&D. Voilà, donc le musée à Rome s'emploie à faire connaître et à présenter au public ce patrimoine. Donc je vous invite effectivement à le parcourir. Et à Konit s'emploie à rendre lisible et à valoriser ce qui a été fait dans l'entreprise. Donc là, il y a une tâche aussi de mémoire qui est exceptionnelle. Et on remercie effectivement les gens qui nous aident à valoriser ce patrimoine et à le mettre effectivement à la disposition du public. Parce qu'il y a vraiment quelque chose sur 150 ans qui mérite d'être diffusé et connu du grand public. Voilà, je vous remercie.